Et sans plus tarder, je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais, présentée par Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Bonsoir. Fin de l'ultimatum accordé aux FDLR pour leur désarmement volontaire. Cet ultimatum courait jusqu'au 15 mars, c'était samedi dernier. Il faisait suite essentiellement à l'accord de Nairobi signé le 9 novembre de l'année dernière entre la RDC et le Rwanda sous les auspices de la communauté internationale. La question a été évoquée hier dimanche à Goma, au Nord Kivu, par le général Dieudonné Kayembe, chef d'état-major général des FARDC. Il a rencontré son homologue James Kabarebe du Rwanda. Sur la fin de l'ultimatum, les Nations Unies ont même voté une résolution appelant les FDLR à désarmer immédiatement. Après cette date butoir du 15 mars, les FDLR ont-ils respecté l'ultimatum du gouvernement? Que compte faire le gouvernement congolais et la communauté internationale au lendemain de l'expiration de ce délai? C'est le sujet de cette émission. Et d'après les premiers messages des auditeurs de Radio Okapi, Sola Bitello de Goma, pour lui, comment les FARDC vont-ils s'y prendre? Vont-ils désarmer ces FDLR par force ou continuer à les sensibiliser pour qu'ils déposent les armes volontairement? Je crois, affirme-t-il, qu'il faut des stratégies appropriées pour éviter beaucoup de morts et de déplacés. Adrien Ilobakwey de Lubumbashi Katanga se demande si l'armée congolaise sera capable de désarmer ces rebelles FDLR ou Tourandais, car, rappelle-t-il, Kunda n'avait que 1000 hommes, mais l'armée n'a pas pu le désarmer. Pour Katembo Mwanga de Bunia dans la province orientale et Yves Lalou de Kinshasa, tant qu'il n'y aura pas d'aide des forces étrangères pour désarmer les FDLR, l'armée congolaise seule ne saura pas rétablir l'ordre. Nous recevons comme invité Louete Katembo, député national et président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, Jacques Joly, sénateur MLC, et Enfil Sebahara, chargé de recherche au groupe de recherche international basé en Belgique.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à l'émission en téléphonant au 081-890-66-78 ou encore par courrier électronique à dec@radiocapi.net.
Fin de l'ultimatum accordé aux FDLR pour leur désarmement volontaire. Les FDLR ont-ils respecté l'ultimatum du gouvernement? Selon le chef d'état-major général des FARDC, le désarmement des FDLR pourrait intervenir dans les semaines prochaines. Annonce faite à la presse hier dimanche par le général Dieudonné Kayembe. C'était à l'issue de la réunion sur la sécurité frontalière, entre le Rwanda et la RDC. Le général Dieudonné Kayembe avait en face de lui un autre général, James Kabarebe, chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Pour les détails, suivons notre confrère Guivre Géniampala, qui a joint un autre confrère, Sylvestre Kilolo à Goma.
Bonsoir Sylvestre Kilolo.
Bonsoir Guivre Géniampala.
Vous avez assisté au point de presse des deux chefs d'état-major, les généraux Dieudonné Kayembe pour les FARDC et James Kabarebe pour l'armée rwandaise. Que peut-on retenir de cette rencontre?
Il convient d'abord de préciser que c'est la toute première rencontre à Goma entre les autorités hiérarchiques militaires du Rwanda et de la République démocratique du Congo depuis l'accord de Nairobi. L'un des temps forts de ce point de presse a été l'annonce faite par le général Kayembe Dieudonné sur les coups d'envoi du désarmement forcé des FDLR dans les tout premiers jours. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de l'adresse du général Dieudonné Kayembe.
Nos unités qui sont au nord ont déjà commencé la mise en place. Et toute la semaine prochaine, vous allez assister à la mise en place d'autres nouvelles unités qui vont venir en dehors du Nord Kivu et en dehors du Sud Kivu.
Ça interdit directement les opérations.
Et ces unités se mettent en place pour accomplir ces missions qui sont fixées par le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Et du côté rwandais?
Le général James Kabarebe croit qu'il faut à tout prix que le gouvernement congolais mette en exécution ses engagements par rapport au désarmement des FDLR. Je vous propose lui aussi de l'écouter.
Il y a des mécanismes qui ont été pris pour résoudre les problèmes FDLR. Il y a des accords de Nairobi et la résolution des Nations Unies. C'est-à-dire, les FARDC et la MONUC doivent mettre en pratique ces résolutions. Les problèmes FDLR doivent avoir des solutions. et la solution est en train d'être trouvée. La résolution des Nations Unies est prise. Il reste que les actions de désarmement forcé soient mises en exécution.
Et comment Sylvestre Kilolo a réagi dans les rangs des groupes armés du Nord Kivu sur cette question du désarmement forcé des FDLR?
Sur cette question, les points de vue divergent. Il faut noter qu'au sein des pays de Laurent Kunda, on se réjouit qu'enfin les autorités congolaises soient décidées de s'engager contre les FDLR. D'après les porte-parole militaires, le major Serapé Mirindi, le désarmement des FDLR constitue l'unique solution pour résoudre la situation sécuritaire. Mais pour certains groupes Maïmaï, à l'image de celui de Didier Bitaki, ils redoutent des conséquences que pourrait avoir une telle opération sur les populations dans les villages entourés par les FDLR notamment.
Dernière question, Sylvestre. Le gouverneur du Nord Kivu avait accompagné le ministre des Affaires étrangères dans une mission de sensibilisation des FDLR. Avez-vous des informations sur les bilans de cette sensibilisation?
Il paraît tout à fait prématuré pour l'instant de faire un bilan de cette sensibilisation dans la mesure où celle-ci n'a démarré qu'en janvier 2008. Et des turquois qui a été interrompu pendant tout le déroulement de la conférence sur la paix de Goma. Et tout ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que d'après le gouverneur Julien Paluku de Nord Kivu, que nous avons rencontré juste avant le démarrage de cette émission, le gouvernement provincial ainsi que l'Assemblée provinciale ont effectué quelques descentes, notamment dans les territoires de Rutshuru et de Lubero, qui accueillent des combattants FDLR, en vue de les sensibiliser sur leur désarmement volontaire et éventuellement pour les retours dans leur pays. Le gouverneur Julien Paluku reconnaît tout de même qu'il n'a pas pu effectuer les mêmes missions dans les territoires de Matissi et de Walikale.
Merci Sylvestre Kilolo.
Merci à vous aussi.
Vraiment, Lete Katembo, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes député national, président de la commission défense sécurité à l'Assemblée nationale. On vous a déjà présenté. Lorsque vous suivez le travail qui a été fait sur la sensibilisation par le gouvernement des FDLR, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a réussi à sensibiliser ces rebelles au Tourandais?
Dire si le gouvernement a réussi à sensibiliser, c'est une autre chose, mais j'espère que le temps accordé est suffisant. Parce que le problème, c'est de voir les objectifs des Congolais. Les Congolais veulent la paix dans leur pays. Les Congolais veulent qu'il y ait la paix dans leur pays. Donc, pour qu'il y ait la paix, toutes ces forces-là doivent être évacuées de ce pays.
Oui, les forces doivent être évacuées de ce pays, et justement, je crois que c'est le processus qui a été mis en place, et toujours par rapport à cet ultimatum, justement, qui a été lancé. Est-ce que Jacques Joly, vous pensez que le travail a été bien fait, parce qu'on a suivi l'élément de nos confrères, que déjà il y a eu la conférence de Goma. Pendant cette conférence, les autorités congolaises n'ont presque pas fait cette sensibilisation. Et puis à Masisi, Walikale, ça n'a pas été fait par le gouverneur Julien Paluku. Quel bilan vous avez-vous de cette sensibilisation finalement, Jacques Joly?
Merci bien, vous connaissez, vous savez, cette question de FDLR, nous l'avons discutée lorsque l'accord de Nairobi a été signé, et nous avons dit déjà notre pessimisme, n'est-ce pas, dans la démarche du gouvernement congolais. Mais bon, écoutez, on nous a dit que le ministre, il y avait une commission qui était mise en place avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Information. Mais cette commission a pris 3 mois, donc depuis le 9 novembre jusqu'au 15 mars, eh bien, c'était la période prévue, n'est-ce pas, pour approcher de manière pacifique ces FDLR. Donc, il ne fallait pas croire qu'il n'y aura pas un 15 mars qui arriverait. Eh bien, le 15 mars est arrivé, il faut maintenant, selon ce schéma, passer à la phase supérieure. Donc, dès le départ, nous avons dit que nous entrons là dans un schéma typiquement rwandais et d'intériorisation d'un conflit rwandais sur notre territoire et d'un schéma qui obéissait beaucoup plus à un agenda rwandais.
Comment ça?
Bien sûr, parce que la question de l'approche militaire, de la question FDLR, de leur faire la guerre, c'est un schéma qui est propice, n'est-ce pas, qui fait l'affaire du gouvernement rwandais. Nous voulons tout simplement que les FDLR soient désarmés et que cette affaire-là puisse faire, n'est-ce pas, l'objet d'une démarche strictement congolaise. Mais nous avons signé un accord où c'est nous qui avons la charge et que les Rwandais, tout simplement, nous regardaient dans un débat qui est le leur. C'est un problème rwando-rwandais. Mais notre problème à nous, c'est, comme a dit le roi de l'OT, que les Congolais vivent en paix. Maintenant, comment on va le faire? Parce que les Rwandais se sont dit qu'ils ne sont pas concernés par cet accord. Donc, il faudrait maintenant le faire. Je me demande comment on va le faire. C'est ça la question aujourd'hui.
Mais justement, en attendant de voir comment ça devrait se passer, pense-t-il, Seba Ara, au niveau du groupe de recherche international pour la paix, dont vous êtes membre, vous, est-ce que vous pensez, comme le dit Jacques Joly, que finalement le désarmement forcé des FDLR ferait l'affaire de Kigali?
Merci de me donner la parole. Donc, je suis du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles. Je pense qu'il ne faudrait pas interpréter la question des FDLR comme une question spécifiquement, je dirais, rwandaise. Dans le sens où aujourd'hui, on constate quand même que la problématique des FDLR est devenue aussi une question congolaise, dans le sens où toutes les actions, les exactions qui sont commises par ces combattants, les principales victimes, ce sont les populations congolaises des provinces du Nord et du Sud Kivu. Donc, dans ce sens, c'est une question qui relève aussi donc de la responsabilité du gouvernement congolais qui a la charge en fait d'assurer la paix et la sécurité donc de sa population. Donc, dans ce sens,
oui, mais on sent quand même que la charge est en fait laissée au gouvernement congolais.
Oui, là c'est un choix quelque part, donc c'est l'objet d'un compromis. Et ici, donc, la question, ce serait alors de débattre du contenu, quelque part, des engagements de Nairobi. Donc, si le gouvernement congolais s'est engagé à assurer le désarmement par différents moyens, là, il faudra voir quels sont les moyens appropriés, parce que le désarmement forcé n'est pas nécessairement, disons, la solution miracle, parce que il faut voir si cette solution pourra être opérationnelle.
Mais
donc, il faudrait peut-être voir quelles sont les meilleures stratégies, comme disait un intervenant tout à l'heure. Donc, quelles sont les stratégies appropriées pour atteindre l'objectif. Donc, je crois qu'il faut pouvoir regarder les différentes options possibles et puis voir comment on les met en œuvre.
Vous pensez, Katemo, je reviens encore à ce que vient de dire Jacques Joly, parce que pour Pampi Seba Ara, il faut voir encore les différentes possibilités qui s'offrent pour arriver finalement à ce désarmement de FDLR. On va le voir dans la deuxième partie, mais en attendant, est-ce que vous pensez, comme l'a dit Jacques Joly, qu'arriver à ce désarmement forcé, ça c'est ce que souhaiterait Kigali? Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, l'OT.
Dire que je partage ou pas, c'est son point de vue. Mais je vois une chose.
Qu'est-ce que vous voyez?
Pour le désarmement de FDLR, nous, au Parlement, nous avions dit que ce problème ne devrait pas nécessairement concerner seul le gouvernement congolais. C'est ainsi que la monique est là. Parce que la communauté internationale connaît comment les FDLR sont entrés au Congo. Et ce sont eux qui les ont encadrés d'entrer dans ce pays avec des armes.
Oui, mais...
Alors nous avons voulu ceci.
Oui.
En ce qui concerne la procédure, ce n'est pas la guerre contre les villages. Nous avions déjà dit qu'il fallait d'abord qu'il y ait des camps de concentration pour le désarmement volontaire.
Et
nous apprenons qu'il y a déjà quelques gens dans ces camps.
Combien?
Et il y en a qui hésitent. Je n'ai pas de chiffres à donner, mais seulement il y en a qui hésitent parce que quant au nombre qui était déclaré comme FDLR au Congo, on avait donné un chiffre de 6723. Alors, mais quand on demande au Rwanda combien de gens vous recherchez comme génocidaires, ils déclarent 7000 génocidaires. Ce qui signifie que ceux qu'on considère aujourd'hui comme génocidaires, même les enfants qui sont nés au Congo, bien ceux qui sont entrés au Congo avec 5 à 10 ans, sont considérés comme des génocidaires.
Alors, vous pensez qu'avec cette liste, ça complique un peu les choses?
Nous pensons qu'il faut que la communauté internationale s'implique sérieusement pour garantir pour que le Rwanda puisse garantir les retours des SDLR, parce que des deux côtés, il y a la responsabilité. Les Congolais, le gouvernement congolais doit faire ce qu'il avait promis, c'est-à-dire y aller avec des moyens, d'abord des douceurs, afin qu'on puisse atteindre l'objectif de les évacuer de notre pays.
Oui,
le Rwanda doit garantir que ces gens-là qui rentrent chez eux, ce n'est pas pour qu'on puisse écraser même les innocents qui n'ont pas participé au génocide.
Mais est-ce que vous pensez que ça, ça doit être la tâche de la RDC de pouvoir faire le suivi des rebelles hutu-rwandais une fois retournés à Kigali? Jacques Joly, est-ce que ça devrait être la tâche
de la RDC? Ce n'est pas notre tâche, mais c'est un problème humanitaire. Tout le monde sait que la vie humaine est chère, on doit la protéger. Donc, on doit protéger tout le monde.
Oui, et ça c'est l'été qui parlait encore. Mais est-ce que Jacques Joly, est-ce que ça doit être la tâche de la RDC, de chercher à savoir est-ce que Kigali va bien accueillir ces rebelles hutu-rwandais? Est-ce que ça doit être c'est la tâche de la RDC?
Oui, mais voilà, justement, c'est là où je pose la problématique. C'est que la problématique a été mal posée par la RDC lorsque nous sommes partis à Kigali. Le Rwanda a fait de cette question une question exclusivement congolaise. Alors que, comme le dit tous les autres collègues, ce n'est pas une question exclusivement congolaise. C'est une question qui est une question internationale ou régionale. Donc, les Rwandais ne sont pas arrivés au Congo par la volonté du FDC, c'est d'abord un conflit qui part du Rwanda. Et aujourd'hui, ces gens-là, c'est tout pour l'instant de l'autre Rwandais. Maintenant, on donne à la FDC. La FDC a accepté dans cet accord d'en faire son problème, de désarmer par la force un certain 15 mars. On croyait que ça n'allait pas arriver. Maintenant, le gouvernement est au pied du mur. C'est donc à Nairobi, dans l'accord de Nairobi, que la diplomatie congolaise devait poser le problème. Oui, c'est ma population qui souffre d'abord. Ce ne sont pas les Rwandais. Les Rwandais, c'est une menace potentielle. Mais les Congolais souffrent au jour le jour de viol, de l'occupation de leur territoire par des troupes étrangères armées. Et que ces populations-là, Congolais doivent être protégées. Comme ce sont des troupes étrangères, depuis l'accord de Lusaka, la communauté internationale a une responsabilité, la MONUSC a une responsabilité, et le Rwanda a une responsabilité. Si nous avons l'obligation de chasser ces gens-là, et c'est une obligation de notre souveraineté, nous devons contrôler 7 centimètres, mais la communauté internationale, on devait poser la question à Nairobi pour que nous puissions de fait se bénéficier des armes. Aujourd'hui, comment on va chasser ces gens-là alors que nous sommes sous embargo? C'est ça la problématique.
Oui. On va arriver justement.
Alors,
oui,
allez. Je voudrais dire que nous avons nous-mêmes mal posé la problématique. Nous sommes allés dans une démarche qui nous met dans un coup de sac, et le Rwanda et les autres pays ont, n'est-ce pas, la tâche facile à nous regarder, sachant bien que nous ne l'avons pas reçu. Et le Rwanda, comme l'a dit le Mourabé Lossier, n'a aucun intérêt à nous faciliter la tâche parce que le Rwanda ne veut pas d'un seul coup chez eux. C'est pourquoi vous avez donné la liste de cette nuit. Voilà la question.
Oui. Et puisque nous nous retrouvons, nous, c'est-à-dire la RDC seulement se retrouve dans ce que Jacques Joly appelle le cul de sac, Jacques, plutôt Louette Katembo, finalement, pourquoi la douceur, comme vous avez dit, même s'il faut que la communauté internationale assiste la RDC, mais comment on peut expliquer que la sensibilisation des FDLR n'est pas réussie, parce que d'après ce que vous dites, il n'y a que quelques FDLR qui ont accepté en fait de se rendre dans les centres de regroupement. Pourquoi alors pourquoi ils n'ont pas suivi en masse?
Mais j'ai déjà répondu à votre question. Quand nous disons qu'au Congo il y a 6723 FDLR et qu'on demande à Kigali, combien de génocidaires vous recherchez? On parle de 7000.
Donc vous pensez qu'ils ont peur, donc?
Ils ont peur de sortir. Il faut vraiment les approcher et les convaincre, parce qu'il y en a, ils sont nombreux qui veulent aller aussi chez eux, mais quand ils apprennent qu'ils cherchent 7000 personnes à juger, et qu'ils voient leur place.
Parfil Sebara, vous pensez que en voyant une liste de 6000, environ 6000 génocidaires parmi... Oui, Parfil, vous êtes en ligne? Parfil Sebara, je crois qu'on a un problème avec...
Oui.
Ah oui, voilà. Donc vous êtes en ligne, vous nous suivez, peut-être avec un tout petit retard, je pense, au niveau de ligne. Mais je pense que vous suivez un peu la question. Est-ce que lorsque le Rwanda remet une liste d'environ 6000 génocidaires, vous pensez que
cette liste-là peut effrayer les FDLR et les freiner à suivre la sensibilisation lancée par la RDC à se rendre en masse dans les centres de regroupement.
Moi, je n'avais pas cette information que le Rwanda donc aurait remis une liste de 6000 personnes qui sont recherchées pour participation au génocide, mais ce serait étonnant en fait que cette liste corresponde, je dirais, au nombre de combattants, je dirais, des FDLR, mais cela, je pense qu'il faut voir la question dans sa globalité, parce que d'abord, pour une réaction par rapport au débat précédent, la communauté internationale est déjà impliquée dans ce processus. La MONUSC a un mandat en fait d'appuyer le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais dans le processus de DDRLR, donc de processus de désarmement, démobilisation, réintégration, rapatriement, donc de combattants étrangers.
Donc
la communauté internationale est impliquée. Et là, il faut voir comment le processus de dialogue se poursuit. Donc là, c'est un premier élément. Et la question des personnes qui seraient poursuivies pour participation au génocide au Rwanda, là, je crois que c'est une question qui doit être, je dirais, discutée par les personnes concernées. Donc les autorités concernées, sur base des éléments, moi je ne sais pas, je n'ai pas cette information, donc je ne saurais pas dire si c'est le cas. Il faudrait voir alors si cette information se vérifie ou pas.
C'est une information,
non, la question,
c'est une information vérifiée justement et vérifiable même. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que est-ce que ça peut encourager les FDLR à désarmer volontairement?
Non, c'est vrai, si ces personnes sont poursuivies, donc c'est la question en fait de la justice. La communauté internationale doit s'impliquer aussi dans la justice. Donc, si ces personnes sont soupçonnées pour avoir commis des crimes, oui, ça peut les effrayer. Et c'est pourquoi en fait, donc dans ce projet de sensibilisation, il faut arriver à voir quelles sont les motivations de ces combattants. Parce qu'aujourd'hui, on sait que il y en a, certains groupes exploitent par exemple des ressources minières et des minerais donc dans les territoires du Kivu. Sure. Est-ce que ces gens, ils ont intérêt à rentrer, même s'ils n'étaient pas poursuivis? Est-ce qu'ils ont plus intérêt à rentrer ou à rester dans les territoires? Donc je crois que c'est une question complexe, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, qu'il ne faudrait peut-être pas isoler en fait les différents éléments, voir concrètement qu'est-ce qui pourrait être fait, quelles sont les revendications des FDLR et comment appliquer en fait le droit international, parce que si les gens sont poursuivis par la justice, donc ils doivent se présenter devant la justice.
Oui. Voilà, merci Panfil Sebaha. Nous vous gardons évidemment dans cette émission fin de l'ultimatum accordé aux FDLR pour leur désarmement volontaire. Pour la deuxième partie de cette émission, question: que compte faire le gouvernement congolais et la communauté internationale au lendemain de l'expiration de ce délai? On se retrouve tout de suite, mais n'hésitez pas si vous voulez réagir.
Dialogue entre Congolais. Participez à l'émission en envoyant un SMS au 081 05 15 778.
Fin de l'ultimatum accordé aux FDLR, rebelles Hutu rwandais, pour leur désarmement volontaire. Que compte faire le gouvernement congolais et la communauté internationale au lendemain de l'expiration de ce délai? On a suivi le chef d'état-major général des FARDC dans la première partie de cette émission. Le général Dieudonné Kayembe a déclaré hier dimanche à Goma que le désarmement des FDLR pourrait intervenir dans les semaines prochaines. Deux jours avant la fin de cet ultimatum du 15 mars accordé par le gouvernement congolais FDLR, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait voté une résolution demandant aux FDLR de désarmer immédiatement, sinon ils risquaient donc d'encourir des sanctions. Le porte-parole intérimaire de la MONUC, Michel Bonardo, précise le sens de cette résolution des Nations Unies.
La MONUC enregistre depuis très longtemps un certain nombre de FDLR et autres. Pas oublier non plus qu'il y a des ADF Nalu, il y a d'autres groupes armés étrangers qui se trouvent sur le sol congolais. Maintenant, il est trop tôt pour dire s'il y a effectivement une augmentation due à cette résolution. Pour le moment, la situation reste un peu la même. Cette fameuse date du 15 mars n'est pas une date qui a été donnée soit par l'ONU ou par la MONUC, donc ni par le Conseil de sécurité. La date du 15 mars a été arrêtée par le gouvernement congolais dans leur plan de désarmement des FDLR qu'ils devaient présenter suite aux engagements pris dans le communiqué de Nairobi. La MONUC a pour mandat d'appuyer les opérations des FARDC qui visent les FDLR. Les moyens de la MONUC, ça inclut les moyens militaires. C'est ce que le représentant spécial a dit lors de son point de presse de la semaine dernière. Il a expliqué que, par exemple, des opérations sont déjà en cours, notamment au sud Kivu. Donc c'est une opération qui a deux volets. Elle tend à aider ou à appuyer les FARDC dans les attaques qu'ils devraient mener s'il y a lieu sur les FDLR et protéger ainsi les populations civiles.
C'était donc le porte-parole intérimaire de la MONUC, Michel Bonardo, qui répondait à Guy, Roger et Nyampala. Réagissant justement à cette résolution des Nations Unies, selon l'AFP, les FDLR ont qualifié la résolution des Nations Unies d'injuste et contre-productive. Pour les FDLR, l'ONU doit tout simplement éviter la prolifération des menaces dans une région déjà meurtrie par des génocides. Ils se disent par ailleurs disposés à rentrer au Rwanda dans le cadre de la stricte application de la déclaration de Rome du 31 mars 2005, déclaration selon laquelle les FDLR se disent prêts à désarmer si des mesures d'accompagnement se concrétisent au Rwanda. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire, l'OET Katembo Raymond? Vous êtes président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que les autorités congolaises que vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Oui, pour prendre la question.
Oui, c'est à vous, les autorités congolaises. Oui, vous êtes l'une des autorités. Oui, vous êtes
nous avons déjà répondu. Oui. Il y a eu déjà des dispositifs qui étaient pris. Le processus est que, après la sensibilisation, ceux qui acceptent de remettre les armes d'une façon volontaire, on peut les conduire là où ils veulent continuer à vivre. Et ceux qui ne veulent pas, et qui résistent dans des forêts congolaises, l'État doit, le gouvernement congolais doit s'impliquer pour les déloger de nos forêts, parce que c'est le territoire congolais, ce n'est pas le territoire rwandais.
Donc, à vous entendre parler, on peut dire que la porte reste encore ouverte pour les FDLR qui accepteraient encore de se rendre, donc de désarmer volontairement.
Bien sûr. Nous souhaitons qu'il remette les armes volontairement. C'est la meilleure procédure parce que quand il y aura le jeu des armes, même la population congolaise en souffrira.
Mais entendre Jacques Joly, entendre le chef d'état-major des FARDC, le général Dieudonné Kaimé, je pense qu'on peut se dire que ça ne devrait pas traîner, du moins le démantèlement des FLR, du moins l'attaque.
Non, mais je crois que le Congo, comme je l'ai dit, est face à sa responsabilité, face à la responsabilité de protéger sa population. Des opérations logistiques, je crois, ont déjà commencé et signalées dans la région. Mais la question, c'est la problématique de notre capacité effective, n'est-ce pas, à opérer contre ces hommes qui constituent, n'est-ce pas, une mobilose. Mais puisque nous avons pris cette responsabilité, il faut aller jusqu'au bout. Ça, on ne peut plus reculer parce que finalement, nous risquons de nous retrouver dans une situation où une partie du territoire sera, n'est-ce pas, occupée. On arrive vers une libanisation, une somalisation du Nord Kivu et surtout par des forces étrangères. Et qui exploitent les mines, qui commandent et qui deviennent même des choses coutumières dans cette région, ce qui est inacceptable. Mais, comme nous l'avons dit au départ, la question, c'est que le Congo n'a pas su suffisamment se faire entendre pour bénéficier, n'est-ce pas, du concours de la communauté internationale. Je suis très heureux que le président de la République ait convoqué une session spéciale de la CAC pour le Tchad, mais nous aurions dû profiter de l'occasion pour poser la question du Congo, puisque dans le cadre de la CAC, il y a la FOMAC, qui est donc la force multinationale de l'Afrique centrale, qui aurait pu nous donner si ça existait. Donc, nous n'avons pas suffisamment fait comprendre que cette question militaire ne pose pas simplement nos faibles forces armées congolaises, qui sont déjà une opérationnelle, une opérationnalité plus ou moins relative contre des gens qui contrôlent cette zone, mais je crois qu'on n'a pas d'autre choix. La question, comme je l'ai dit, aurait pu être discutée au plan international parce qu'il y a une cellule de renseignement qui est à Kisangani que nous avons montée dans le cadre de la tripartite plus A.
Oui.
Comment là où se trouve toute cette force-là? Cette cellule-là comprend et des officiers rwandais, ougandais et autres. Donc, à partir de ce motif de renseignement, on aurait pu planifier une opération conjointe appuyée par la communauté internationale.
Donc, opération conjointe RDC-Rwanda? Opération conjointe RDC-Rwanda, c'est ça?
Même pas Rwanda, CAC ou une autre structure, ou l'Union africaine. Nous avons reçu le truc de l'Union africaine, une équipe avancée. Parce que lorsque nous étions à San Egidio, on a senti que le Rwanda ne nous ouvrira pas dans cette question et le Congo se trouvera seul s'il ne s'est pas posé la question au plan international pour impliquer tout le monde de manière à nous prêter main forte. Mais aujourd'hui, nous devons y aller. Et je me demande comment on va le faire, mais bon, comme le chef d'état-major dit qu'il va le faire, il faut lui faire confiance.
Oui. Non, il faut faire confiance au chef d'état-major des FARDC, Louete Katembo. Pourtant, il y a des sceptiques parmi la population. C'est le cas des auditeurs qui nous ont écrit, par exemple, Adrien Ilobakwai. Lui, il se demande, mais comment l'armée congolaise va faire pour donc les FARDC, pour désarmer les rebelles outo-rwandais, lorsque, selon lui, face à Kunda, avec 1000 hommes, les FARDC n'ont pas pu le faire. Et il y a même un autre, c'est Katembo Mwanga de Bumia dans la province orientale, et même Yves Lalou de Kinshasa. Ils disent que sans l'apport des forces étrangères aux côtés des FARDC, ils ne voient pas comment les FARDC peuvent démanteler les FDLR. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ils n'ont pas tellement tort, mais nous avons déjà dit que le problème des FDLR ne peut pas être considéré comme le problème congolais. Seulement congolais, non. C'est un problème qui est connu, que la communauté internationale a aidé l'entrée des FDLR dans notre pays. Mmh. Et au Parlement, nous avons toujours insisté que la communauté internationale sache qu'elle était au début de leur entrée, elle doit aussi aider le Congo à faire sortir les FDLR pour les conduire chez eux.
Aider la RDC comment? Parce que la logistique, évidemment, la MONUC s'est déjà engagée, elle est déjà
sur le s'engage davantage, que la MONUC s'engage davantage, parce qu'elle a des moyens. Vous savez combien de temps notre pays est en train de vivre dans l'embargo sans armes. Et la MONUC a des moyens.
Il y a des armes qui entrent aussi.
La MONUC peut aider le gouvernement à repousser les FDLR jusqu'à leur pays. Tout en disant à la communauté internationale qu'elle a aussi le devoir de protéger ces gens-là parce qu'ils savent comment ils sont entrés. Ils peuvent les protéger pour qu'ils ne soient pas tués quand ils seront dans leur pays.
Et Panfil Sebara, vous peut-être vous croyez, hein, je pense, hein, vous croyez dans les FARDC, vous pensez que les FARDC seront capables de démanteler les FDLR?
Non, c'est pas une question de croyance ou pas. Ce que j'ai dit, en fait, c'est que il faut voir le problème qui se pose, voir quelles sont les approches appropriées pour le résoudre. C'est vrai, la question du désarmement forcé, c'est une option parmi d'autres. L'expérience, malheureusement, donc, de ces derniers mois ou de ces dernières années, montre que face aux combattants qui sont dans des régions difficiles, qui maîtrisent très bien les FARDC, n'ont pas nécessairement la garantie, je dirais, d'utiliser le seul moyen, disons, du désarmement forcé pour atteindre l'objectif. Donc je crois qu'il sera important d'utiliser en fait tous les moyens, donc mobiliser les forces armées pour montrer en fait que si les FDLR refusent de désarmer, donc il y a un risque donc de subir d'être désarmé par la force, mais aussi poursuivre comme
Radib, par exemple, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, que le travail de sensibilisation et de pression doit se poursuivre. Donc, ce n'est pas parce que l'ultimatum est dépassé qu'on arrête en fait toutes les options pour recourir à la force. Donc, parallèlement à la mobilisation des forces armées qui ont la mission donc d'assurer la sécurité et de garantir la paix pour toute la population, il y a aussi tous les moyens de pression, de la sensibilisation pour amener en fait du moins certains groupes à accepter le désarmement et soit de retour au Rwanda ou alors l'option parce que en fait, il y a donc les membres du FDLR pourront éventuellement choisir soit de rentrer ou alors demander faire d'autres propositions. Mais l'important, c'est le désarmement pour que, en fait, donc la menace qui consiste dans la sous-région, notamment donc à l'est du Congo, mais aussi donc pour le pays d'origine, soit levée une fois pour toutes. Parce que c'est une question capitale, en fait, pour pouvoir assurer la paix dans la sous-région.
Oui, mais Panfil Sebara, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce que disent ces FDLR qui ont réagi, on a suivi à la résolution des Nations Unies, lorsqu'ils disent qu'ils sont prêts, évidemment, ils s'appuient sur la déclaration de Rome du 31 mars 2005, qu'eux sont prêts à désarmer, mais il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement, et là, ils font allusion à une certaine ouverture politique du côté du Rwanda. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une telle ouverture pourrait aussi faciliter les choses?
C'est vrai, la question de la déclaration de Rome. Donc, les FDLR s'étaient engagés à désarmer, à rentrer, je dirais, volontairement, mais on ne sait pas pourquoi, en fait, donc, la déclaration est restée lettre morte. Donc, la question de l'ouverture pour le Rwanda, d'après en tout cas les informations que j'ai, c'est que des membres des FDLR qui rentrent, qui décident de rentrer volontairement donc via les mécanismes mis en place par la Monique, ils sont accueillis, certains sont réintégrés dans l'armée nationale, et d'autres choisissent éventuellement de retourner dans la vie civile. Il y a des problèmes, je crois qu'il y a des mécanismes qui sont prévus à la fois au niveau donc de la Monique, au niveau des mécanismes d'échange d'informations, de concertation entre la RDC et le Rwanda. Et je crois que c'est dans ces mécanismes que les différents interlocuteurs peuvent évaluer, voir où en est le processus, est-ce qu'il y a des problèmes qui se sont posés aux personnes qui ont choisi de rentrer. Il y a des problèmes, comment les résoudre?
Voilà.
Sinon, si on reste dans les déclarations officielles qui ne sont pas nécessairement, je dirais, des revendications qui ne sont pas nécessairement basées sur des faits qui peuvent être mis sur la table dans les cadres de concertation,
oui.
On n'avance pas beaucoup.
Voilà, on n'avance pas beaucoup, mais on va voir d'abord du côté des auditeurs, ceux qui nous suivent, comment ils réagissent avec vous. Guy Roger-Napala, bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude. Congo Pierre depuis Mbujimayi au Kasaï Oriental demande au gouvernement de s'organiser d'abord en interne en restructurant l'armée avant de désarmer les FDLR, car pour lui, si on désarme les FDLR de force avec l'actuelle armée, nous risquons d'échouer. Michael Elenga de Mbandaka dans l'Équateur pense que notre gouvernement agit toujours en position de faiblesse, même si la durée des l'ultimatum arrive à expiration, affirme-t-il, il va toujours négocier. De son côté, Mouringi Nestor de Kisangani, dans la province orientale, pense que c'est du folklore, car selon lui, les FDLR deviennent un fonds de commerce pour ceux qui s'enrichissent sur base du chaos qui règne à l'est du pays. Edgar de la Suède soutient que le gouvernement dans les opérations militaires contre les FDLR. Il doute toutefois de la capacité militaire des FARDC à mener avec succès ces opérations, ceci au regard de la dernière débâcle, selon lui, des FARDC face aux forces du CNDP. Enfin, Bouchala Wambashi d'Uvira au sud de Kivu demande pour sa part à la RDC de respecter cette fois-ci ses engagements face au Rwanda. Ceci pour que les FDLR rentrent une fois pour toutes chez eux, car nous avons marre de leurs exactions sur les populations congolaises, conclut Bouchala Wambashi d'Uvira au sud de Kivu.
Merci beaucoup Guy Roger Nyampala. Je reviens vers vous, Louete Katembo, pour essayer de répondre à ces différentes préoccupations de ces auditeurs qui nous suivent, avec celle de Congo Pierre. Lui tient à ce que le gouvernement organise d'abord en interne l'armée avant de désarmer les FDLR, car selon lui, il a peur que le FARDC n'échoue devant les FDLR.
Quel temps il donne? Il n'a pas donné le temps. Nous estimons que l'armée s'organise. Ce que l'armée congolaise manque, ce sont des armes. Mais si les autres qui ne veulent pas nous faciliter la tâche, comprenez que le gouvernement congolais a l'obligation de garder l'intégrité de son territoire et qu'il permettait à l'armée congolaise de s'équiper normalement. Je pense que nous avons une armée qui n'est pas contestable, qui a déjà fait preuve de temps en temps, mais il est question maintenant qu'on puisse que le gouvernement puisse l'équiper valablement afin que l'armée fasse
ses preuves.
Ce qu'il doit faire.
Oui, donc pour vous, les FARDC ne sont pas suffisamment équipés.
J'estime que le problème est au niveau de l'équipement parce que nous venons d'un embargo qui est connu de tout le monde, ce n'est pas caché, mais nous avons des héros dans l'ombre, nous avons des jeunes Congolais qui sont prêts à combattre.
Voilà, donc ce n'est pas un problème d'hommes, c'est un problème d'équipement. Jacques Joly, vous êtes de cet avis que le problème au niveau des FARDC, c'est un problème d'équipement et non un problème d'hommes, comme le dit le vice-président de la commission, le président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale.
Non, sincèrement, je crois que nous sommes encore dans la phase de brassage. Il y a 15 brigades qui sont brassées. On parle de la, nous venons de la table ronde. Donc nous sommes en phase de montage d'une armée. Et cette armée n'a pas encore eu la combativité nécessaire, la cohésion, la doctrine nécessaire pour faire face à des opérations sérieuses. Mais le problème, c'est que notre armée est maintenant pratiquement victime d'un choix. Je veux dire, irrationnel d'un certain schéma. Si le gouvernement s'est présenté diplomatiquement à la rencontre d'Addis Abeba pour poser clairement le problème de notre armée, de notre souci d'abord de désarmer ces gens-là. Ils peuvent rester ici comme réfugiés, mais on ne peut pas avoir des hommes armés dirigés contre le Rwanda, contre le Congolais sur notre territoire. Mais il fallait poser la question de manière rationnelle pour impliquer tout le monde et que la responsabilité de chacun apparaisse. Non. Le Rwanda intervient dans ces situations-là parce que un problème interne au Rwanda qui est l'acceptation de ses compatriotes n'est pas abordé. Donc, il n'y a pas de dialogue inter-Rwandais, comme on l'a toujours dit, mais si c'était des Congolais comme Kunda, la communauté internationale nous aurait imposé de dialoguer avec lui, comme nous le faisons, et nous venons le dialogue, nous sommes un pays démocratique. Mm. Donc, nous, un pays démocratique, nous cherchons à résoudre le problème, mais les pays qui utilisent essentiellement la violence ou l'armée comme méthode de gouvernement, nous sommes pas sur le plan diplomatique, à lui imposer un agenda parce que les gens se gênent au nom d'un génocide réel qui a eu, mais qui doit aujourd'hui décomplexer tout le monde pour dire au Rwanda, c'est responsabilité. Voilà la question. Nous avons une responsabilité, et je crois que nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas la capacité. Mais il faut le faire, et c'est à cause de ça, de l'égarement ou de la non-maîtrise de la priorité par le gouvernement, que nous risquons, n'est-ce pas, de rater encore une opération, de nous avaler une opération inefficace.
Voilà. On va aller rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est peut-être juste 2 minutes qui nous restent. Avec vous, Pamphile Sebahara, pour répondre à Mirou Guinestor de Kisangani, qui pense que finalement la question de FDLR est devenue un fonds de commerce pour ceux qui s'enrichissent sur base du chaos à l'est du pays. Vous êtes de cet avis?
Je ne pense pas que ce soit une question, un faux problème, parce que c'est vrai, il y a des individus, des groupes, y compris même les FDLR, donc qui exploitent les ressources, donc qui s'enrichissent, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas un problème. Quand on voit les exactions qui sont commises contre les populations, quand on voit que, en fait, ça constitue un argument pour un certain nombre de groupes armés, donc qui sont là pour se défendre contre les FDLR. Non, quand on voit que c'est un problème, en fait, donc, de sécurité au niveau sous-régional, donc c'est un problème qui doit être résolu.
Voilà, c'est un problème qui doit être... Oui, concluez, parce qu'on n'a plus de temps. Oui, concluez, en un mot.
Donc, pour conclure, tous les moyens peuvent être utilisés, par exemple, un meilleur contrôle des canons de commercialisation des ressources par SDLR, si ces canons pouvaient être coupés, mais peut-être merci. Qu'il y aurait une pression en plus.
Merci, Pantou. On va terminer avec vous, Louette, avec cette question qui vient d'arriver, une réaction de Didier Kombe de Kindou, qui pense que non, la forcer l'SDLR à désarmer, c'est un piège tendu au gouvernement congolais. Vous êtes d'accord avec ça?
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que c'est le gouvernement congolais qui a proposé le processus pour se débarrasser de FDLR. Donc c'est une page tendue, c'est le gouvernement congolais qui a proposé cette procédure, tout en impliquant la communauté internationale qui était responsable de
l'arrivée de FDLR. Merci beaucoup. C'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à tous les invités. Mise en onde de cette émission, Sylvain Baougueré, réalisation d'Anselme Sissi Mumbere, Diogé Nampala était à la préparation. Au nom de toute l'équipe, Jean-Claude Toumba Kamanga vous dit merci de nous avoir suivis.